Bonjour à tous, Liliane pour Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Brantôme, Madame de Lafayette, le portait au nu. Et Michelet, lui, il en a fait un portrait absolument haineux. Alors de qui s'agit-il ? Eh bien d'Henri II de Valois, le fils de François Ier et de la reine Claude. Il naît le 31 mars 1519, vers 7h du matin, au château de Saint-Germain-en-Laye. Pour faire plaisir au roi d'Angleterre, Henri VIII, on le prénomme Henri. Ça, c'est un prénom qu'on n'a pas beaucoup vu dans la liste des rois précédents. Il y en a eu un seul, c'est Henri Ier, qui a été roi de 1031 à 1060, qui était le petit-fils du Capet. Alors, il n'est pas appelé à régner parce qu'il a un frère aîné qui s'appelle François et qui est né en 1518. Il a le titre, comme d'ailleurs tous les deuxièmes, de duc d'Orléans. 1525, vilaine date, leur père, le roi François Ier, est battu à Pavie en Italie par les troupes de Charles Quint. Et il est fait prisonnier. Donc les enfants sont orphelins, leur mère est morte en 1524, leur père est donc prisonnier, il va se retrouver en Espagne, en Italie d'abord, puis en Espagne, et c'est leur grand-mère, alors Louise de Savoie, la maman de François Ier, qui veille sur eux. Charles Quint finit par délivrer François Ier, mais, à une condition extrêmement cruelle. Il sera remplacé par ses deux fils aînés. Alors ils partent donc d'Amboise, avec une grande escorte, leur grand-mère aussi, Louise de Savoie, et leur gouverneur, Monsieur de Cossé-Brissac. À Bayonne, leur grand-mère les quitte, et une dame de la suite s'approche alors et embrasse les deux enfants. Retenez bien son nom, c'est Diane de Poitiers, femme de Louis de Brézé, qui est le grand sénéchal de Normandie. Le 17 mars 1526, on les conduit sur la rive de la Bidassoa, et sur un ponton qui est au milieu du fleuve, ils retrouvent leur père. Les voilà en Espagne. Il y avait eu un traité entre François Ier et Charles Quint, ce qui a permis d'ailleurs à Charles Quint de laisser partir François Ier. Mais dès qu'il est rentré en France, dans le traité, on disait que François Ier cédait la Bourgogne à Charles Quint. Dès qu'il est rentré en France, François Ier dénonce le traité qu'il a signé et il refuse de céder la Bourgogne. Si bien que la détention des petits princes se modifie, on leur enlève leurs serviteurs français. Ils sont mis dans une forteresse qui est absolument perdue dans la montagne. On les traite absolument en criminels d'État. On les oblige à parler espagnol. Finalement, Charles Quint veut bien les libérer parce que, de toutes parts, il reçoit quand même des lettres pas très gentilles, mais contre une rançon phénoménale. Alors Louise de Savoie envoie son huissier qui trouve les princes dans un état lamentable. Le 1er juillet 1530, on les échange contre 30 mulets chargé d'écus d'or. Une fois revenus en France, les enfants vont être gâtés. On va essayer de leur faire oublier ces 4 années en Espagne. Alors leur maison est augmentée. Quand on dit leur maison, c'est l'ensemble des domestiques. Le roi veut qu'ils jouissent d'une liberté pratiquement entière, qu'on ne les contredise pas, qu'on les laisse agir comme ils l'entendent. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que ce sont des principes d'éducation qui sont déplorables. Les princes, cependant, restent moraux et méfiants. Henri demeure timide, sauvage, il fuit la compagnie des garçons de son âge, mais quand il est en confiance, finalement, il rit et il bavarde. On remarque sa franchise, quelquefois un petit peu brutale. Physiquement, il se présente comme quelqu'un de très brun. Tout à fait, on disait même noir comme un corbeau. Il a le teint mat, il a l'œil sombre. Alors il s'intéresse à quelque chose, uniquement pour l'instant au sport. Il monte à cheval, il chasse, il lutte, il aime beaucoup les exercices militaires. Et il se lie d'amitié avec Jacques d'Albon de Saint-André, un jeune homme plein d'assurance, d'élégance et d'une grande bravoure. Et Henri n'a pas d'aventure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il aime en secret la resplendissante Diane de Poitiers. Elle a 30 ans, elle est mère de 2 filles, et ajoutons que contrairement à beaucoup, elle est fidèle à son vieux mari. Henri ne veut alors qu'être son chevalier servant. Lors d'un tournoi auquel il est autorisé à participer, il abaisse sa lance devant Diane de Poitiers. Alors le roi trouve ça très très bien, et il demande à Diane de Poitiers de s'occuper de lui. Il pense que son influence sera bénéfique, que cette grande dame polira le caractère du garçon. Il ne lui demande pas, n'est-ce pas, de le déniaiser, pardon, et Diane l'entend bien ainsi. Elle sait lui inspirer confiance en lui-même, elle lui sert de seconde mère finalement. Elle lui montre assez d'affection pour entretenir involontairement les braises qui couvent en lui. Alors le roi songe à le marier. Il cherche et il arrête son choix sur Catherine de Médicis. Pourquoi ? Eh bien, ce serait avoir un pied en Italie. Il ne renonce pas comme ses prédécesseurs au duché de Milan. Et puis, il y a une chose quand même qu'il ne faut pas négliger. Elle est prodigieusement riche. Donc, la dot va être très confortable. Alors, on consulte le pape, Clément VII, dont Catherine est non pas, comme on disait, la nièce, mais la cousine. Alors c'est un pape épouvantable, tout à fait, j'allais dire faucheton. Alors il dit qu'il va réfléchir, qu'il y a déjà plusieurs propositions. Puis finalement, il donne son accord. 1531, Louis de Brézé, le mari donc de Diane de Poitiers, meurt à 72 ans. Et alors Diane de Poitiers adopte des vêtements de veuve qu'elle ne quittera plus. Bon, il faut dire que le noir va très bien à son teint et à ses cheveux blonds. 11 octobre 1533, les galères transportant Clément VII et Catherine de Médicis arrivent à Marseille. Le 23, cette dernière paraît devant François Ier. Alors, physiquement, c'était quand même un pot à tabac. Hein. Elle n'était pas grande, elle n'était pas très jolie, mais très élégante. Parée de bijoux absolument somptueux, très souriante, elle a très bon caractère. Elle fait bonne impression. Chapitré par Diane de Poitiers, Henri se montre aimable. Il plaît beaucoup à Catherine, qui pour elle a, je vous ai dit qu'elle n'était pas très belle, mais elle a des yeux admirables, pétillants d'intelligence. Le 28 octobre, Clément VII célèbre la messe de mariage. Et ce pape meurt 1 an après. Il n'a tenu aucune de ses promesses, celle d'aider par exemple François Ier en Italie, et puis il a oublié de verser la totalité de la dot. Si bien qu'à la cour, Catherine est regardée de travers. Seul le roi lui montre de l'affection. Alors un autre qu'elle se serait désespéré de sa situation. Mais elle a autant de volonté que de finesse, et elle décide de paraître effacée, discrète, mais d'ouvrir l'œil et l'oreille, et d'étudier chacun. Nous allons faire une première pause musicale.
Réveillez-vous, car vous en dormez.
Cette attitude désarme peu à peu ses détracteurs. Elle conquiert absolument la famille royale. Il faut dire que sa culture éblouit. Elle parle quatre langues, le grec, le latin. Elle a reçu une éducation très raffinée. Et puis elle a la passion de la chasse. Elle monte merveilleusement à cheval. Alors ça plaît beaucoup à François Ier, qui la traite comme sa propre fille et lui fait partager toutes ses chasses. La guerre, toujours latente entre Charles Quint et François Ier, reprend. Et cette fois, c'est l'empereur qui est battu. Le roi et ses fils se sont transportés à Lyon, qui est la base logistique des opérations, depuis Charles VIII et Louis XII. C'est là, hélas, que le dauphin François meurt. La douleur du roi est immense. Ce dauphin François, c'était un deuxième François Ier, le même caractère, il s'entendait fort bien, son père l'aimait beaucoup. Henri devient alors dauphin. Seulement, il n'est pas préparé à ce nouveau rôle. Parce qu'il n'était pas destiné à régner, alors on ne l'a pas éduqué en conséquence. Et il semble montrer, finalement, du goût pour les armes. Alors son père lui donne le commandement nominal de l'armée de Picardie. Le commandant effectif, c'est Montmorency. On en reparlera. La campagne d'Italie est un succès. Montmorency écrit au roi qu'Henri est endurant, de bonne volonté et absolument indifférent au danger. Et ce dernier admire beaucoup Montmorency. Il se prend d'affection pour lui. C'est un peu l'image du père qu'il n'a pas vu, parce qu'on ne peut pas dire que François Ier l'aimait beaucoup. Il était gentil avec lui, mais un petit peu condescendant. Hein. 1538. Il semble que ce soit cette année-là que Diane de Poitiers devient la maîtresse d'Henri. Elle a à peu près le double de son âge. Et Catherine feint d'ignorer, et elle ne se permet pas le moindre reproche. Seulement à la cour, on parle de répudiation, parce que Catherine n'a toujours pas donné d'enfant à Henri. Alors on verrait bien à la place une demoiselle de Guise. Catherine, elle entend tout ça. Alors elle joue son va-tout. Elle est fine, hein. Elle se jette aux pieds de François Ier en larmes et elle lui offre de laisser la place, d'être répudiée et de partir finir ses jours au couvent. Et elle remercie humblement de l'honneur qu'on lui a fait en l'acceptant dans la maison de France. François Ier la relève en lui disant qu'elle restera la femme du dauphin. Elle a gagné. Enfin, le 15 janvier 1544, Catherine met au monde son premier fils. Le roi décide qu'il s'appelle François. Il sera le futur François II. Finalement, Catherine, elle va donner 10 enfants à Henri II. Alors en attendant, François Ier associe Henri aux affaires du royaume, mais il ne peut pas oublier le premier dauphin dont il avait le même caractère. Henri, lui, il est guindé, tatillon. Il n'a pas l'esprit de répartie, ni le propos gaillard, ni le désir de briller. Il parle peu, raisonne longuement. Bref, il agace le roi. Les choses empirent. Lors d'un dîner arrosé avec des amis, Henri dit tout ce qu'il ferait quand il sera roi. Seulement, il y en a un qui va rapporter ses paroles. Fureur de François Ier, le dauphin, par prudence, ne reparaîtra pas à la cour pendant un mois. Alors le roi finit quand même par pardonner à son fils, mais il interdit aux amis du roi de reparaître à la de reparaître à la cour. Ah, François Ier est malade, mais il veut mourir debout, donc il continue toutes ses obligations. En mars 1547, il s'arrête à Rambouillet, chez Jacques d'Angennes, pour y chasser et se reposer. Et voilà qu'une fièvre presque continue mine ses forces. Le 15 mars, il s'alite, l'infection se généralise. Alors il fait venir son fils et il lui donne ses dernières recommandations. Il lui dit « Il faut alléger les impôts, maintenir dans leurs fonctions ceux qui ont bien géré le trésor. Il doit se méfier de l'ambition dévorante des Guises. » Au moment de perdre ce père qui l'a mal aimé, finalement Henri éprouve un chagrin très violent. François Ier s'éteint le jeudi 31 mars 1547. Henri quitte alors Rambouillet et se rend à Saint-Germain-en-Laye. Et on note un changement dans son attitude. Il a l'œil plus vif, le sourire plus fréquent, on le sent heureux et fier d'être roi. il entend continuer la politique extérieure et intérieure de son père, mais avec des hommes à lui. Et parmi ceux-ci, en premier, Montmorency. Alors ce dernier est un partisan farouche du catholicisme et de l'absolutisme royal. Il a 54 ans, la mine plutôt rébarbative, la franchise très brutale, exactement comme Henri II. Son désir de servir et son attachement à la royauté contrebalancent un orgueil et des appétits qu'Henri II connaît bien. Le 2 avril, après 2 heures d'entretien, le nouveau gouvernement est formé. En ce qui concerne Anne de Poitiers, Henri II entend l'élever au rang de presque reine. Il lui donne les bijoux de la couronne et il y ajoute les châteaux qui ont été confisqués à l'ex-favorite de François Ier, la duchesse d'Étampes. Il lui octroie aussi 100 000 écus pour son avènement. En 1547, il lui donne Chenonceau et en 1548, elle devient duchesse de Valentinois. Elle incite le roi à mettre fin au dévergondage de la cour. L'atmosphère donc en devient très grave. Henri II, par exemple, supprime les concerts et les bals quotidiens. Alors maintenant, il faut penser au couronnement. Ce dernier a lieu le 26 juillet 1547. La cérémonie est absolument grandiose. On a envoyé des invitations aux souverains d'Europe. Ils sont venus. Alors venons-en aux affaires avec l'Angleterre. Henri II tient par-dessus tout à recouvrer la ville de Boulogne. Alors on le pousse à intervenir contre l'Angleterre. Il réfléchit et pense que, comme préalable, ce serait bien de fiancer Marie Stuart, furent une reine d'Écosse, elle a 4 ans, avec son propre fils, le dauphin François. Donc c'est chose faite et il y a une condition, c'est que Marie doit être élevée en France. Donc la petite de 4 ans arrive à Nantes et fait une entrée absolument de reine. Elle arrive à Saint-Germain, y fait la connaissance de François et de ses sœurs et tout de suite, elle prend François en amitié. Et lui est complètement ébloui devant cette petite de 4 ans. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie d'Henri II de Valois, le fils de François Ier. Donc la question d'Angleterre est réglée. Ce qui se passe en Allemagne intéresse Henri II, parce que Charles Quint a des démêlés avec les princes allemands. Beaucoup de ces princes allemands sont devenus des protestants. Hein. Henri II, lui, il est prudent, il ne s'engage pas à la légère. Plusieurs années vont s'écouler avant qu'il se prononce finalement en faveur de ces princes protestants. Et voilà que le roi décide de faire un voyage dans le Piémont. Décidément, les rois de France, hein, Charles VIII, Louis XII et François Ier, étaient obnubilés par l'Italie. Alors, ils voulaient absolument récupérer le Milanais. Le Milanais, parce qu'il se trouvait être dans l'héritage du roi René. Lui, Henri II, il n'a pas l'intention de reconquérir ce territoire. Il veut simplement faire une tournée d'inspection et, en réalité, faire une démonstration de force face à Charles Quint. Alors, il part de Troyes le 15 mai 1548. Il traverse la Bourgogne, arrive à Lyon. Pendant l'absence du roi, Catherine de Médicis s'est vue confier une sorte de régence du royaume. Henri II franchit le Mont-Cenis, il arrive à Turin, qui est la capitale du Piémont. Alors il visite les places fortes. Ces places fortes, elles bordent le Milanais. Elles sont dans le Piémont, mais elles bordent le Milanais. Il inspecte les troupes, il distribue des décorations et un fait unique. Ça montre quand même bien le fond de son caractère. Il fait donner de l'argent à tous les estropiés de la guerre, quand ça a été une guerre évidemment pour le servir lui, et il ordonne aux abbés de les recevoir dans les abbayes pour le reste de leur vie. Ça préfigure tout à fait les invalides finalement. Hein. Le pape aurait voulu l'aide d'Henri II pour chasser les Espagnols du Milanais, les Espagnols de Charles Quint. Hein. Il réclame des hommes et de l'argent. Henri II, lui, il refuse de s'engager. Les Piémontais montrent qu'ils sont attachés à la France. Henri II est acclamé. Alors, devant ces bonnes dispositions, le roi décide d'annexer définitivement cette province. Le Piémont devient français. Voilà qu'il apprend que des troubles ont éclaté à Paris et aussi dans l'Ouest. Donc, il décide de rentrer. Il quitte Turin pour se rendre à Lyon. Alors l'émeute de Paris, elle n'est pas très grave, il s'agit simplement d'une querelle entre l'université et les moines de Saint-Germain-des-Prés pour un terrain. Les choses s'arrangent. En revanche, la révolte qui a lieu à cause de la gabelle, je vous rappelle que la gabelle c'était l'impôt sur le sel. Ça, cette révolte, elle est autrement plus grave. Elle commence en Saintonge et en Guyenne. Et on attaque et on tue les sauniers et ceux qui perçoivent l'impôt, on les appelait les gabelous. Il y a des pillages partout, des tueries, des assassinats. Et l'insurrection se propage même vers le Bordelais. Alors Henri II, il a peur d'une intervention anglaise, parce qu'il faut se rappeler quand même que tout le sud-ouest a appartenu à l'Angleterre. Hein. Le roi alors envoie une armée de 10 000 hommes. On confisque les armes des habitants de Bordeaux, le Parlement est suspendu, Bordeaux est accusé de crimes de sédition, de rébellion et de lèse-majesté. Les privilèges sont abolis et la ville doit verser une amende de 200 000 livres. On pend, on décapite, on roue. Le 22 novembre, Montmorency, qui était à la tête de cette armée de 10 000 hommes, quitte Bordeaux et laisse une forte garnison et un gouverneur à poigne. Pendant ce temps, Henri II arrive à Lyon, donc le 23 septembre 1548. La réception est magnifique. Le 1er octobre, le roi quitte Lyon, tout à fait content. Le 8 octobre, il octroie à Diane de Poitiers le titre, dont je parlais tout à l'heure, de duchesse de Valentinois. Elle devient l'égale des Montmorency et des Guise. Eh bien, Catherine de Médicis avale cette nouvelle couleuvre de plus, sans une plainte, tant elle est fine joueuse, parce que Henri II, c'est un de ses amants qui, pour avoir la paix, comble de présents leur maîtresse, mais aussi leur femme. Voilà 2 ans qu'Henri est roi. On discerne en lui une sagesse, une prudence qui plaisent au peuple. En faisant élever la petite reine Marie Stuart à la cour de France, il a soustrait l'Écosse à la rapacité des Anglais. Il a créé des difficultés sérieuses et continué la Charles Quint. L'influence française progresse en Italie. L'amitié avec les cantons suisses a été resserrée. Les cantons se sont engagés à ne pas entrer au service de Charles Quint. Et nous possédons une lettre de Catherine qui nous est précieuse parce qu'elle nous fait connaître l'emploi du temps d'Henri II. Ça vaut la peine d'écouter ça. Il se lève à 7 heures. Il n'aime pas s'attarder au lit, même si la veille il s'est couché tard. C'est un homme d'habitude, rien ne le fait déroger du programme qu'il s'est fixé. Quand il est habillé, on introduit ceux qui sont admis au lever. Alors ils entrent à la file indienne, selon un protocole très rigoureux. Le roi dit quelques mots à chacun, le plus souvent avec une extrême courtoisie. Ensuite, il s'agenouille et prie. Les courtisans se retirent, ne restent alors que les membres du conseil secret, dont bien sûr fait partie Montmorency. Alors on examine les affaires touchant à la paix, à la guerre, à l'administration du royaume. Ensuite, Henri II consacre une heure ou deux à la correspondance. Il lit les comptes rendus des diplomates, il indique les réponses qu'il faut faire et le lendemain, il vérifie que tout ça, ça a été fait. Il veille à l'expédition des lettres. Comme il est méfiant, il a ses propres espions. Il consulte tous ceux qui sont susceptibles de l'éclairer, même les petites gens. Et quand il leur parle, il va jusqu'à leur demander des nouvelles de leurs femmes et de leurs enfants. Alors évidemment, ces gens-là sont aux anges. La messe a lieu tous les jours à 10 heures. Le roi est un croyant absolument sincère. Et après la messe, courte promenade, et le déjeuner commence à 11 heures, quelquefois un peu plus tard. Dès que le roi est à table, on apporte le couvert, c'est-à-dire les couteaux et les cuillères, car on ne connaît pas encore l'usage de la fourchette. Le roi, comme tout le monde d'ailleurs, mange avec ses doigts. Et à l'époque, on essuie tout ça avec la nappe. Henri II est sobre. Après le repas, il donne audience. Lui parle à qui veut, n'importe qui, à condition d'avoir une tenue décente. Il semble qu'il en impose plus que son père. Il est très attentif, sérieux, réfléchi. Il ne répond pas à la légère et il plaisante rarement. Il sait écouter. Après les audiences, Henri II va au cercle de la reine. Vers 15 heures, il se promène à cheval avec sa noblesse. Ensuite, sport. Alors, plein de sport. Il joue aussi bien à la paume. Il patine parce qu'à l'époque, il y avait de la glace sur les étangs. Il pratique aussi l'escrime. 2 jours par semaine, il chasse. Il chasse le cerf. Le souper est pris en famille. Après ça, il y a bal, mais seulement 2 fois par semaine. Et à 22 heures, on se couche. Le roi s'y connaît bien, par exemple, en chiens et en chevaux. Quant à Catherine de Médicis, son salon joue un rôle tout à fait déterminant quant à l'évolution du goût et des mœurs. Par exemple, elle promeut Ronsard et ses amis de la Pléiade. Elle soutient les musiciens. Elle est toujours de bonne humeur. On peut dire qu'elle domine la cour de toute son intelligence. Et Henri II, il se plaît bien au cercle de sa femme. Il est moins lettré qu'elle, mais il aime la musique et il joue de la sitar. On peut dire que tous les deux se complètent par leurs différences et se rejoignent dans l'amour des divertissements et aussi dans l'amour pour leurs enfants. Alors actuellement, il y a qui ? Eh bien, le dauphin François, 5 ans, Elisabeth, 4 ans, Claude, 2 ans, et Louis qui vient de naître. C'est un père excellent. Il va jusqu'à écrire à Monsieur Dumais qu'il faut non pas maintenir son fils habillé avec des robes, comme c'était l'usage, hein, mais qu'il faut l'habiller en garçon. Malheureusement, on peut dire que ces enfants royaux, ils ont une santé déficiente. Eh bien, nous en parlerons plus tard. Au revoir à tous.
Radio Grand Ciel.